that today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire.
C'était le vice-président Mike Pence, Raphaël Jacob, et qui disait « Aujourd'hui, les États-Unis et la Turquie ont convenu d'un cessez-le-feu ». Évidemment, ça va permettre aux Kurdes de reprendre leur souffle.
Oui, cessez-le-feu temporaire, il faut le dire. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Bien, ça implique, selon le vice-président Pence, que les États-Unis ne vont pas aller de l'avant tel qu'il était prévu originalement en imposant de nouvelles sanctions contre la Turquie dans les prochains jours.
Mais ça va donner 5 jours... de répit aux Kurdes avant de recommencer à se faire massacrer par les Turcs.
Bien, c'est la question qu'on se pose très sérieusement. On n'a pas vraiment de réponse à ça présentement. Surtout pas dans le contexte de ce qui est sorti hier soir. Sur les réseaux sociaux, il y a une chose plus que n'importe quelle autre qui a été partagée. Et c'est une lettre officielle avec l'entête de la Maison-Blanche provenant de Donald Trump envoyée au président Erdogan de la Turquie. Tu l'as lu comme moi. Dis-moi
écoute,
ce que tu en penses.
Bien, d'habitude, il y a une raison, je pense, pourquoi il y a un décorum quand les nations s'adressent une à l'autre. Et là, Donald Trump écrit une lettre à son vis-à-vis turc. Écoute, c'est le genre de lettre c'est le genre de lettre que tu écris à ton voisin parce que tu n'es pas content qu'il mette ses poubelles dans ton bac à poubelles, mettons.
Sauf que c'est fait par message texte.
C'est ce ton-là, et à la fin, il finit « je vais vous appeler plus tard ».
Oui.
Voyons, tu envoies une lettre manuscrite, on va t'appeler plus tard.
Exact.
Mais zéro décorum encore une fois, mais tu sais, on pourrait dire, Raphaël, bon, OK, c'est juste la forme. Mais chez Donald Trump, on le sait, là, la forme, c'est le fond. Et le fond, ben c'est toujours brouillon.
Et c'est là que ça devient problématique. Et c'est que ça ratisse beaucoup plus large qu'une simple lettre. Dans ces propos-là que Trump a tenus à l'égard du président turc, ce qu'il a dit, ce qu'il a répété, en fait, c'est qu'il était prêt à détruire l'économie turque.
Oui.
Le problème avec ça, c'est qu'on menace, on jappe très, très fort, mais là, du côté à la fois des adversaires des États-Unis et des pays alliés, on va commencer à douter de la crédibilité de ces menaces-là.
On va commencer?
Oui, bien, exactement.
On pense que ça fait longtemps qu'on doute de la crédibilité américaine.
Bien, et c'est là le risque. Tu sais, le 26e président des États-Unis, Teddy Roosevelt, pour ne pas le nommer, avait une expression probablement que tu connais, qui disait en diplomatie, « Speak softly, carry a big stick ». Autrement dit...
Parle pas fort, puis promène-toi qu'un gros bâton.
Bien, c'est ça. Pour que... Quand tu mords, ça fasse mal. Tu n'as pas besoin de japper. Ce que Donald Trump fait en se comportant comme ça, c'est non seulement japper, mais hurler. Mais quand vient le temps de mordre, il n'y a à peu près plus personne qui va le prendre au sérieux. Et on le voit actuellement sur le terrain. Donc, ce n'est pas simplement une question de lettre loufoque ou ridicule qui est envoyée. C'est plus large que ça au niveau des implications.
Raphaël, pour situer les gens, là, c'est complètement absurde parce que les Américains avaient des bases en Syrie, en Irak, etc. Ben, et là, pour la lutte à l'État islamique, et Trump avait promis d'arrêter de faire des guerres partout.
Ouais.
Cette guerre-là, elle n'est pas gagnée, mais pas loin d'être gagnée. Et là, pour faire une sorte de coup d'éclat, dire qu'ils ramènent les soldats américains, ben, ils les ramènent. On abandonne les bases en catastrophe. Pour vrai, les Russes sont rendus dans les bases américaines. Ouais. Et on abandonne aussi les alliés kurdes qui ont payé de leur sang pour aider l'Occident à combattre l'État islamique.
Écoute, tu dis...
Parce que les Turcs sont en train de leur taper dessus.
Tu dis on quitte les bases américaines de façon précipitée. Ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est que les forces de l'air américaines avaient dû bombarder au moins une base américaine parce qu'elle était en train, en fait, d'être essentiellement il y avait des forces ennemies qui étaient en train d'en prendre le contrôle. T'sais, ça fait pas sérieux, ça fait
organisé. Écoute, les commandants sur le sol en Syrie n'étaient pas d'accord avec ce retrait-là. Là, pas du tout, pas du tout. Il y a un article fascinant là, dans l'Atlantic qui raconte comment Donald Trump prend des décisions. Il écoute personne. Écoute, personne.
J'ai lu l'article en question. Ça a été écrit par l'auteur de Black Hawk Down. Pour ceux qui ont vu le film Black Hawk Down, probablement un des meilleurs films de guerre faits des 20 dernières années, l'auteur du livre sur lequel le film était basé a signé un article absolument saisissant de plusieurs pages dans lequel il détaille général après général qui dit, écoutez, c'est pas une question partisane, là. On n'a jamais eu affaire à un commandant en chef comme ça. Et c'est très difficile de suivre la chaîne de commande qui, évidemment, est à la base même du système.
Oui, parce que le leader civil est le chef des armées.
Exact.
Donc, les militaires respectent ça, mais ils ont beaucoup de difficultés, plusieurs d'entre eux, à respecter le jugement du commandant en chef. OK, parle-moi d'impeachment.
Oui, je te parle d'une déclaration choc faite il y a à peine une heure par le chef de cabinet de Donald Trump. Il était en point de presse et il se fait poser une foule de questions dans le contexte de l'impeachment. Et il va avouer de façon proactive que oui, il y a eu un retour d'ascenseur où il voulait qui est un retour d'ascenseur entre le président Trump et le président ukrainien. On écoute ceci, on s'en reparle après.
He also mentioned to me in the past that the corruption related to the DNC server, absolutely, no question about that. But that's it, and that's why we held up the money.
Donc, je traduis. Donald Trump voulait que l'Ukraine enquête sur la question du serveur d'Hillary Clinton. Donc, il y avait la question des Biden, de Joe Biden, d'Hunter Biden. Il y avait aussi la question du fameux serveur d'Hillary Clinton sur lequel Donald Trump voulait que le gouvernement ukrainien se penche. Ce que le chef de cabinet de Trump vient de dire, encore une fois, proactivement devant les caméras du monde entier, c'est à cause de ça qu'on a retenu les fonds publics qui avaient été octroyés pour le Congrès à l'endroit de l'Ukraine. Parce qu'on attendait que le gouvernement ukrainien s'engage à enquêter là-dessus. C'est exactement ça qu'on reproche à Trump et que Trump se défend bec et ongle d'avoir fait. Et là, tu as son chef de cabinet qui dit « Oui, c'est absolument ça, on l'a fait. »
Dans une république de bananes, tu peux demander ça. Mais dans une démocratie comme les États-Unis, il y a des lois qui encadrent justement là, des demandes comme ça d'ingérence étrangère. Il joue vraiment avec le feu, Donald Trump.
Il joue avec le feu et écoute bien ceci, comme si c'était rendu chose normale. Le chef de cabinet en question, M. Mulvaney, a dit « Habituez-vous à ça, c'est normal quand démocratie, on s'ingère. »
Et finalement, on a appris où aura lieu le prochain sommet du G7 et je pense que ça va enrichir M. Trump.
Ouais, c'est très possible. Donc, à un de ces resorts, ça avait été une idée qui avait été lancée. Là, ça semble être bel et bien confirmé. Et le fait qu'on n'en parle pas plus de ces fameux conflits d'intérêts-là après près de 3 ans à la Maison-Blanche, ça donne une idée de l'ampleur des controverses avec lesquelles on compose sur une base quotidienne.
Et d'ailleurs, dans quelques minutes, on va parler à un golfeur québécois qui est déjà allé jouer au golf à ce club-là où aura probablement lieu le G7. Merci Raphaël, on se retrouve demain.
Demain.